Bonjour à tous. Nous lisons Exode 19, versets 1 à 6. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, Dieu est intervenu pour libérer son peuple, les descendants d'Abraham, de l'esclavage au service du pharaon l'Égyptien. Un texte qui se situe dans l'histoire ancienne et qui devrait encore nous parler ce matin. Cette vieille histoire du peuple d'Israël qui commence sa traversée du désert, ce peuple de migrants s'éloigne de la misère et de l'oppression et essaye de mettre de la distance entre le pays de l'esclavage et le pays promis par l'Éternel à son peuple. Le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Mais pour l'instant, nous voilà en plein désert du Sinaï. La nourriture ne manque pas. Le soir, c'est volaille au menu, les cailles que l'Éternel donne. Et le matin, c'est récolte de manne pour la consommation quotidienne. Le sixième jour, c'est double ration pour deux jours. Parce que le septième jour, le jour du sabbat, le jour consacré à l'Éternel, un jour donné aux humains pour que leur corps se repose et qu'ils réfléchissent à leur relation avec l'Éternel, le Créateur à l'origine de la terre et de la vie qu'il habite. L'Ancien Testament nous révèle qui est Dieu. L'Ancien Testament révèle qui sont les humains. À la fin du récit de la création, Dieu constate que tout ce qu'il a fait était très bon. Les humains choisissent de se révolter contre Dieu et abîment gravement l'harmonie paisible et sereine du jardin d'Éden. Les conséquences sont terribles, mais Dieu, dans sa grande bonté, déroule inéluctablement un plan de rédemption, un plan de restauration, un projet pour revenir à la situation initiale où le mal et la souffrance n'auront plus le droit de cité. Dieu a fait une promesse à Abraham, une alliance pour l'éternité. Genèse 12, versets 2 et 3, c'est Dieu qui parle à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous voilà à une étape clé de l'accomplissement de la promesse de l'Éternel pour le peuple choisi. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte. Une date, un lieu, c'est l'histoire, une tranche de l'histoire d'Israël. À l'aube de l'installation en terre promise, où le peuple d'Israël devient une nation souveraine. Dieu doit parler à son peuple et il s'adresse à Moïse du haut de la montagne. Une séquence courte. Un rappel historique. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte pour rappeler que Dieu est plus fort que Pharaon et son armée. Un rappel de la bonté et de la bienveillance de l'Éternel. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu rappelle la fidélité à sa promesse et qu'il déploie ses ailes pour porter les enfants d'Israël d'un point à un autre et pour amener le peuple vers lui. L'image est belle. L'aigle est un rapace redoutable qui protège sa descendance jusqu'à l'acquisition d'une autonomie complète. Voilà le préambule. Ma grâce et ma bonté précèdent ce que je vais vous proposer. Voilà le contrat, voilà le challenge. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Un peuple mis à part, un peuple exemplaire, un peuple qui sera remarqué par ses voisins parce que Dieu en est le propriétaire. D'ailleurs, au cas où cela vous aurait échappé, Dieu rappelle, car toute la terre est à moi. Et enfin, un programme pour l'avenir, une feuille de route. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. En quelque sorte, un groupe d'humains chargé d'apporter la connaissance de Dieu aux nations, où chacun exercerait une fonction qui aurait pour but d'attirer les nations à la connaissance de l'Éternel Dieu, où chacun vivrait une vie qui fasse plaisir et honneur à Dieu pour le bien de tous. Vous aurez bien remarqué la chronologie des événements. D'abord, premièrement, la grâce de Dieu qui sauve. La grâce de Dieu est première, et nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est étonnant. L'exode, la sortie d'Égypte, a été un acte de la grâce qui sauve de Dieu, motivé par la compassion pour la souffrance du peuple privé de liberté en Égypte et motivé par la fidélité de Dieu à la promesse faite à Abraham. En Exode 2, versets 23 à 25, nous lisons « Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Les cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » La compassion, la grâce, le salut vient en premier et c'est Dieu qui en est l'initiateur, même dans l'Ancien Testament. Beaucoup de gens pensent que dans l'Ancien Testament, l'individu ou le peuple pourrait être sauvé en se soumettant strictement et en observant la loi avec ses obligations, ses interdits et ses rituels sacrificiels pour le pardon des péchés. Mais, à tout moment, la grâce vient avant la loi. Il n'y a qu'à lire le livre de l'Exode. Les 18 premiers chapitres montrent Dieu à l'œuvre pour sortir son peuple de l'esclavage, avant que n'apparaisse le premier chapitre législatif qui commence par les 10 commandements. La grâce vient en premier, c'est Dieu qui la propose. L'obéissance vient en deuxième. C'est la réponse appropriée à la grâce pour l'individu comme pour le peuple. Mais concrètement, un royaume de sacrificateurs, ceux qui font connaître Dieu aux autres, une nation sainte, mise à part pour le plaisir, l'honneur et la gloire du Dieu vivant, comment ça s'organise? Eh bien, il s'agit bien d'organiser la nation pour que l'individu, la famille, le clan, la tribu et la nation entière reflètent le caractère bon et bienveillant de Dieu. C'est pour cela que Dieu transmet la loi qui encadre le comportement individuel et propose l'organisation de la nation. Justice, défense, économie, maintien de l'ordre, éducation, fonctionnement du culte. Une organisation, selon Dieu, différente de l'organisation des nations voisines. Sans entrer dans tous les détails, nous pouvons lire dans Lévitique 19 et trouver quelques pistes de comment fonctionne une nation sainte. Lors des récoltes, on doit laisser un coin du champ et le raisin oublié pour le pauvre et l'étranger. Il ne faut pas retenir le salaire. Quand le travail est fait, le salaire est dû et doit être donné sans délai. Il faut faire preuve de bienveillance et d'égard particulier aux personnes en situation de handicap. La justice doit être juste, sans tenir compte du rang social de la personne jugée. Et on ne pratique pas la vengeance, mais on cherche le compromis, la médiation, pour maintenir des relations interhumaines paisibles. Les écarts de conduite par rapport à la fidélité conjugale seront dénoncés et châtiés. Le but du travail ne sera pas l'accumulation ou la concentration des richesses. Sur les nouveaux arbres plantés, par exemple, ce n'est qu'à partir de la 5e année que la récolte sera valorisée par le producteur. Pour les échanges, Les balances devront être justes. Les poids devront être justes. L'étranger sera aussi bien traité que l'autochtone parce que, souvenez-vous, vous avez été étranger dans le pays d'Égypte et vous avez l'expérience de ce qu'il ne faut pas faire. Une nation sainte, organisée, administrée, pour que Dieu soit glorifié, pour que les bénédictions annoncées puissent se concrétiser. Une société au service de l'humain, de tous les humains, quelles que soient leurs conditions sociales ou économiques, quel que soit leur statut d'autochtone ou d'étranger. Sans injustice, sans oppression, sans discrimination. C'est ainsi que Dieu voulait que le peuple d'Israël, la nation d'Israël, fonctionne en réponse à l'alliance avec Abraham, renouvelée avec le peuple au cœur du désert du Sinaï. La loi et les ordonnances reçues par Israël n'avaient pas pour but de priver les descendants d'Abraham de liberté, mais comme nous pouvons lire dans Deutéronome 4, versets 5 et 6, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Connaître et observer la loi de l'Éternel en réponse au salut qui nous a été donné et pour que notre façon de vivre au quotidien interpelle nos contemporains et fasse connaître Dieu, l'Éternel juste et bon. C'est notre mission sur terre, quelle que soit l'époque et le monde qui nous entoure. Écoutons 1 Pierre 2, versets 1 à 9. C'est pas ça, c'est 9 à 11. Excusez-moi, pour la référence, c'est à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pierre s'adresse à l'Église naissante, une Église hétéroclite, multiculturelle, formée de juifs, disciples de Jésus et de païens, grecs, romains et autres, touchés par le message de l'Évangile. Les promesses de Dieu pour la bénédiction des nations de toute la terre restent d'actualité. Il n'a pas été facile aux premiers chrétiens de comprendre que Dieu a donné son Fils Jésus pour que tous les humains puissent être au bénéfice de la grâce et recevoir le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset bien connu de Jean 3, verset 16. Avec la venue de Jésus, ce n'est plus la généalogie, la descendance d'Abraham, mais l'insertion dans la lignée des confessants de la grâce qui forment le peuple de Dieu. Peuple élu, citoyen du royaume de Dieu, à son service, un groupe mis à part, une nation sainte, c'est l'Église, c'est nous, avec les chrétiens de toute la terre, de tous les temps. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, cette histoire de la grâce de Dieu, cette promesse de bénédiction pour les descendants d'Abraham et pour toutes les nations de la terre, a amené le ministère terrestre de Jésus, son Fils. Les évangiles nous révèlent que Jésus a réorienté et recentré l'interprétation et la compréhension de la loi d'Israël sans l'amputer de quoi que ce soit. Ses discours, sermons sur la montagne, ses actions au cœur de la société, guérison de nombreux malades, dénonciation des abus et des injustices, dénonciation des pratiques économiques et religieuses abusives. Cet enseignement s'adresse aux païens comme aux enfants d'Israël. C'est le cœur de l'Évangile. C'est là que se trouve le point central de toute la trame biblique. Par fidélité à sa promesse envers Israël, Dieu a envoyé Jésus comme le Messie d'Israël et, par conséquent, le Sauveur du monde. L'Évangile est la bonne nouvelle de tout ce que Dieu a accompli par la naissance, la vie, l'enseignement, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus de Nazareth. Voilà l'Église, devenue le nouveau peuple de Dieu, qui se rajoute aux descendants d'Abraham. Jésus lui-même définit ce nouveau peuple, Matthieu 12, verset 50. « Car quiconque fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Voilà la nouvelle famille. Pierre s'adresse à l'époque à une petite église menacée qui annonce la grâce et le salut en Jésus-Christ, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, comme nous avons lu au verset 9. Nous sommes appelés à diffuser la lumière de Dieu dans nos ténèbres et dans les lieux ténébreux de notre monde. Il reste encore beaucoup de travail. Nous avons obtenu miséricorde, nous avons été au bénéfice de la compassion de Dieu, et comme pour le peuple d'Israël dans le désert du Sinaï, en réponse à cette compassion, à cette miséricorde, Dieu s'attend à ce que nous vivions les valeurs de l'Évangile, l'enseignement et l'exemple de Jésus. Le ministère de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection, c'est le salut offert par Dieu, au même titre que Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage et de l'oppression des Égyptiens. Dieu attendait une réponse de la part de son peuple. L'obéissance à la loi. Dieu attend une réponse de l'Église, la mise en œuvre et l'obéissance à l'enseignement de Jésus-Christ. Il reste du travail. Annoncer les œuvres magnifiques de Dieu, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La grâce est d'origine divine, c'est Dieu qui donne, elle est première. L'obéissance, la recherche d'un mode de vie conforme à l'enseignement de Jésus est attendue de notre part. Individuellement, au niveau de la communauté locale, au niveau des groupes organisés, tous ceux qui appartiennent à ce peuple à qui Pierre s'adresse ont encore beaucoup de chemin à faire. Ainsi que Jésus l'a ordonné, l'Église, le peuple de Dieu descendant d'Abraham et enfant des nations, se doit d'annoncer la bonne nouvelle de salut jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut pas s'empêcher de constater que l'Église est défaillante, comme la nation d'Israël l'a été au temps de l'Ancien Testament en ce qui concerne l'obéissance à l'enseignement de Jésus. Former une nation demande un peu plus d'efforts de notre part que de simplement entretenir une relation personnelle avec Dieu, même si cette relation est indispensable et préalable à notre désir d'obéir au Christ. Former une nation, selon l'enseignement de Jésus, c'est la recherche de la paix. C'est le rejet des discriminations en fonction des origines sociales et géographiques, la dénonciation des injustices et des abus économiques. C'est la pratique de l'amour du prochain. Un vaste chantier qui va bien au-delà de nos préoccupations personnelles quotidiennes. Pour conclure, Dieu ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est écrit dans Hébreux 13, verset 8. Dieu fait grâce et sauve l'individu, le peuple, la nation, toutes les nations de la terre, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Entrer dans son projet, c'est choisir l'obéissance. C'est choisir un mode de vie qui éclaire les ténèbres, un mode de vie qui proclame la miséricorde et la compassion de Dieu. L'individualisme, le chacun pour soi du monde occidental contemporain, ne favorise pas la mise en pratique des valeurs de l'Évangile. Dieu attend de nous un engagement collectif. Dieu attend de nous que nous formions un peuple qui lui appartienne pour apporter la lumière dans les ténèbres de ce monde en attendant qu'il n'intervienne directement pour rétablir et restaurer tout ce qui est parti de travers depuis Adam et Ève. Que ton règne vienne. Amen.
Amen.